RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, content de vous retrouver pour de la discussion et du débat. Vous en avez l'habitude, à 9h, c'est le coup d'envoi des GG, des grandes gueules. C'est à la radio, c'est sur RMC, c'est à la télé, c'est sur RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. Bonjour Olivier.
Bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. De toute façon, vous n'avez rien d'autre à faire que d'écouter ou de regarder les grandes gueules. Il fait un temps de chien, il fait froid. On n'a jamais vu ça depuis, je crois que c'est le week-end de l'Ascension le plus froid depuis 16 ans. Donc restez tranquillement au chaud chez vous dans votre voiture à nous écouter, à nous regarder.
Bon, ça ne l'a pas empêché de venir en chemisette.
Jean-Louis Bonamy,
le professeur de philosophie.
Mais pour quelqu'un de Besançon, il fait chaud.
Bah oui, exactement. Exactement.
Nous sommes avec
c'est la canicule.
Le médecin généraliste Jérôme Marty. Bonjour Jérôme.
Salut à tous. Et puis un petit coup de gueule, parce que vous savez que Toulouse, c'est la ville qui produit les avions. Et on nous supprime maintenant de plus en plus Orly, on nous supprime vol sur vol, on a supprimé Air France pour Transavia, bon, qui est une filiale d'Air France. On ne peut plus repartir à 14h, il faut attendre 16h, il y a des retards systématiques ou quasi systématiques. On a le TGV, la ligne LGV qu'on attend, mais on a les écologistes qui sont contre et qui disent qu'il faut arrêter. Enfin, qu'est-ce qu'on veut ? On veut tuer cette ville ou quoi ? C'est la vraie question, quoi. Est-ce qu'on veut tuer cette ville ? On va pas laisser faire.
Coup de gueule de Jérôme Marty. Puis nous sommes avec Flora Gebali, entreprenant la transition
Toulouse
écologique.
Bonjour,
voilà, ni chemise à manches courtes, ni vol prévu pour Toulouse aujourd'hui. Mais bonjour à tous.
De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG ? D'un bouquin sur la vie privée, vous savez, qui fait beaucoup parler. Florian Tardy sera avec nous à propos du couple Macron, un couple presque parfait. Il va venir s'expliquer, répondre à toutes les critiques. Florian Tardy, il sera avec nous dans les GG à 11h. On aura reparlé de l'angoisse des Français aujourd'hui face à la fondation d'une famille. Un Français sur deux, un couple sur deux aujourd'hui à la trouille de ne pas avoir l'assise financière pour pouvoir fonder cette famille et la faire grandir. Est-ce que vous en faites partie ? Vous venez en parler avec les GG. On sera du côté de Nantes aussi avec l'ado de 15 ans qui a été tué. Un autre de 13 ans grièvement blessé. Le ministre de l'Intérieur est sur place. C'est lié au trafic de drogue. D'abord, on va s'intéresser à l'Eurovision et à la présence d'Israël. Et si vous êtes fidèle des GG, vous avez entendu François Ruffin, le député Ruffin, dire qu'il était choqué, scandalisé par la présence d'Israël au concours de chant Eurovision.
On ne peut pas être au 20e train de sanctions contre la Russie, et je les approuve, et ne pas avoir des sanctions contre l'État d'Israël de Benjamin Netanyahou, qui est accusé de crimes de guerre et génocidaire. Il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures.
Est-ce que l'Iran doit participer à la Coupe du Monde de foot ?
L'Iran, pour l'instant, est un pays attaqué et non pas un pays qui attaque. Je veux n'avoir aucun soutien auprès du gouvernement iranien, auprès de qui, dont j'ai dénoncé les crimes depuis des années et des années. Maintenant, est-ce qu'il doit y avoir un droit d'ingérence sur ce qui se passe à l'intérieur des pays ? Je veux bien réfléchir à cette question sur l'Iran. Mais je veux vous dire que la ligne de partage aujourd'hui, pour moi, elle n'est plus entre les dictatures et les démocraties, elle est entre les pays qui respectent le droit international et ceux qui ne le respectent pas.
Michel, je te laisse.
Qui va présenter Israël et bon nombre de pays ont appelé au boycott. Il y a même des stars internationales, hein, Macklemore, Peter Gabriel, Massive Attack, qui ont signé une tribune en disant Israël n'a pas sa place au concours de l'Eurovision.
Oui, Noam, qui est le candidat israélien et qui chante en français. Oui. Hein, rappelons-le d'ailleurs, Israël participe au concours Eurovision de la chanson depuis sa 18e édition en 1973. Et d'ailleurs, Israël l'a remporté à 4 reprises en 78, 79, 98 et 2018. Donc cette 70e édition provoque effectivement la polémique en raison de la participation d'Israël. L'Espagne, l'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas, la Slovénie ont décidé de boycotter, de ne pas participer à cette édition. Et il y a d'autres pays qui ont annoncé qu'ils ne diffuseraient pas l'émission. Ce n'est pas le cas de la France. Alors vous avez entendu ce que dit François Ruffin. Il fait référence à la Russie, puisque la Russie, depuis 2022, est exclue de ce spectacle. Il y avait d'ailleurs eu unanimité à l'époque pour exclure la Russie. Faudrait-il exclure Israël comme on a exclu la Russie ? Qu'en pensent les GG ?
Et qu'en pense Jean-Loup Bonamy ?
Jean-Loup Bonamy, là,
je le voyais, il trépignait sur son siège.
Alors, très rapidement, j'ai trois choses à dire. Déjà, ça va peut-être vous surprendre, parce que je suis un critique virulent de la politique israélienne. À titre strictement personnel, moi, je ne suis pas opposé à la participation d'Israël à l'Eurovision pour une raison très simple, c'est que je suis contre toute forme de sanction et contre toute forme de boycott contre n'importe quel État. Donc moi, je suis pour la Russie à l'Eurovision, je suis contre les sanctions sur la Russie, je suis contre les sanctions sur l'Iran, quelle qu'elle soit, et je suis contre les sanctions internationales de manière générale. Donc par cohérence, j'estime, et c'est la liberté d'expression, la liberté artistique. Bon. Les artistes israéliens ne sont pas forcément solidaires de la politique génocidaire du gouvernement de M. Netanyahou. Donc moi, je suis contre toute forme de boycott. Ça, c'est la première chose, mais voilà.
Donc un Russe pourrait venir chanter.
Bien sûr, bien sûr.
Et les Iraniens ont leur place à la Coupe du Monde.
Exactement, les Iraniens ont leur place à la Coupe du Monde et les Russes ont leur place à l'Eurovision. Tout État a sa place dans les rencontres internationales, quelles qu'elles soient. Voilà. Et je pense qu'il faut parler à tout le monde, et y compris parler même au Hezbollah libanais.
Le libéral,
voilà.
Jean-Loup.
Et non mais c'est ma vision des rapports internationaux.
Ça aurait eu de la gueule d'avoir sur scène l'Israélien, l'Iranien et le Russe à l'Eurovision.
Ça aurait été excellent.
L'Iran n'est pas l'Eurovision.
Je sais bien, mais deuxièmement, ça m'aurait plu
justement,
quand même.
Je souligne.
On aurait pu en revanche avoir eu, on aurait pu avoir un match de Coupe du Monde entre Israël et l'Iran, mais Israël n'est pas.
Et je souligne justement deuxième point, l'incohérence, le deux poids deux mesures. En effet, on sanctionne la Russie. Par contre, alors qu'Israël viole le droit international tous les jours, vraiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il n'y a pas de sanctions contre Israël. Donc moi, je suis contre les sanctions de manière générale. Mais à partir du moment où on en prend contre la Russie, il faut en prendre contre Israël. Et enfin, dernier point, oui. Je vais conclure. J'ai l'impression, dans le débat français, que le problème, ça serait les gens qui appellent au boycott d'Israël. Ces gens, moi, je viens de le dire, je suis pas d'accord avec eux. Mais c'est pas eux le problème. Le problème, c'est le gouvernement israélien.
D'accord.
C'est le gouvernement israélien qui a tué des dizaines de milliers de civils, hommes, femmes, enfants à Gaza. C'est bien pire que la Russie en Ukraine. C'est le gouvernement israélien qui colonise illégalement en Cisjordanie contre le droit international.
Alors.
Et c'est le gouvernement israélien qui ravage le Liban.
Flora Gebali.
D'abord sur François Ruffin, quand François Ruffin il dit l'Iran est un pays attaqué par un pays attaquant,
oui. Factuel.
La guerre.
C'est factuel. Non, mais l'Iran est un pays attaqué en violation du droit international.
La guerre.
Le Hamas et Hezbollah.
Quand il dit
enfin.
Non, l'Iran est attaqué.
Attendez, c'est Flora qui a la parole.
Quand il dit l'Iran est un pays attaqué et pas un pays qui attaque, Israël a démarré sa riposte aussi.
Ah oui. Too much. C'est une agression.
Aussi too much soit-elle après les attaques.
C'est une agression.
Mais non, mais c'est le Hezbollah qui a démarré.
Je vais finir ma phrase.
S'il n'y a que toi qui as raison, on ne peut pas débattre.
Je vais juste finir. L'Iran est un. Parce que c'est un sujet qui est très important, il mérite qu'on soit précis. L'Iran est un pays attaqué et pas un pays qui attaque. Israël a été un pays attaqué par le 7 octobre, puis a conduit une riposte, comme le fait l'Iran aujourd'hui, une riposte trop brutale à mon goût, trop sanguinaire et trop longue en durée. Est-ce que Israël n'aurait pas dû démarrer une guerre après le 7 octobre, je vois pas qui peut défendre cette position-là. Israël aurait dû vivre le premier pogrom depuis sa création et ne pas répondre. Je suis pas trop d'accord. Au même titre que l'Iran qui attaque à Hormuz, enfin le droit à la défense, pour le coup, dans le droit de la guerre, c'est un des seuls trucs légaux qui reste. Une fois qu'on a dit ça, je rejoins un peu Jean-Loup sur l'histoire du boycott. En fait, quand il y a eu la guerre en Russie, on vivait dans un monde pacifique. Et donc, on a créé une jurisprudence à dire on va boycotter la Russie, parce qu'on s'est dit, tiens, c'est nouveau, il y a un pays qui est agresseur, on va créer des sanctions. À partir du moment où il y a une dizaine de pays en guerre sur le globe, je vois pas comment on tient cette jurisprudence. Parce que si maintenant, c'est Israël qu'on boycotte de l'Eurovision, et demain, il y a le mondial qui démarre, qui a le droit de participer au mondial, qui a pas le droit. Et je sais pas si cette histoire est vraie ou elle est fausse, et je me souviens même plus dans quel film je l'ai entendu, mais vous connaissez l'histoire des joueurs, enfin des soldats français et allemands qui se mettent à faire un foot le jour de la trêve de Noël dans les tranchées.
Ça avait fait un film de Bertrand Tavernier.
Il y a un film là-dessus.
Il me semble.
Pas Tavernier, Joyeux Noël.
C'est
oui,
ça.
Oui.
C'était pas Tavernier, mais.
En tout cas, cette histoire, c'est quoi? C'est la trêve de Noël dans les tranchées. Et là, les Français et les Allemands qui s'ennuient parce que c'est la trêve et il fait froid. Et d'un coup, il y en a un qui commence à tirer dans un ballon. Et hop, il y a un foot, un moment de
donc
paix.
Donc toi, tu serais pour qu'il y ait boycott de personne?
Moi, c'est vrai que si on vit dans un monde où il y a beaucoup de guerres, beaucoup d'agresseurs, beaucoup d'agressés, peut-être que les JO, les Coupes du Monde, tous les concours de sport ou de chant sont le moment où on peut rêver à la paix. Voilà.
Jérôme Marcillon.
C'est une tartufferie, quoi. D'abord, on parle de quoi? On parle de l'Eurovision. cette espèce de spectacle suranné de avec des gens qui ont des qui ont des costumes absolument incroyables et
mais qui a de l'impact.
C'est un monument du mauvais goût, quoi, qui est un truc bon totalement suranné et déconnecté de la réalité.
Mais qui avait révélé à bas quand même.
Et là, tout d'un coup, on en fait le centre de la politique internationale. Mais bon, habillons les ministres comme les chanteurs de l'Eurovision, vous verrez le décalage, quoi. Mais franchement, je serais pour que ce type de festival suranné ou de compétition suranné n'ait absolument aucun lien avec la politique, quoi. Les mecs veulent aller chanter, ils vont chanter, on leur donne des, les pays votent pour un chanteur qu'on aura oublié le lendemain. D'ailleurs, on aura oublié
là, tu 99%
des gens qui chantent.
Mais la question est de savoir si Israël a sa place
Je dis que c'est juste un truc qui est absolument futile et qu'on va pas foutre de la des guerres et des trucs au sein de ce truc futile et en faire un outil politique. C'est une erreur, quoi. Parce que les mêmes qui en font un outil politique et qui disent oui, on enlève Israël, on enlève la Russie, on enlève telle chose, dans le dos de l'Eurovision, ils font l'inverse, quoi.
Non, mais ce qui est gênant, c'est pas ça. C'est le deux poids deux mesures, Jérôme.
J'ai une question. La Coupe du Monde, elle a lieu aux États-Unis. Les États-Unis, ils sont agresseurs de l'Iran aujourd'hui. Est-ce qu'on doit annuler la Coupe du Monde?
Non, mais alors déjà, effectivement, que si on rentre dans cet engrenage, on va arriver avec des absurdités, comme vient de dire Flora, à dire on va boycotter les États-Unis. Donc on peut toujours avoir des raisons de boycotter un pays. Les démocraties sont quand même assez minoritaires dans le monde, hein, il faut quand même le rappeler. Donc ça veut dire que soit on fait des jeux ou des concours de chansons entre démocraties, alors on fait une liste des pays qui sont fréquentables ou qui ne le sont pas, soit effectivement c'est en fonction. Alors Jean-Loup, lui, comme il déteste Israël,
Israël.
Il nous a dit que la guerre en Ukraine fait moins de morts, ce qui est quand même une énorme fake news, puisque je rappellerai que simplement du côté ukrainien, il y a au moins 100 000 morts.
Rapporte à la population.
Et je parle pas des morts russes, qui c'est peut-être sans doute le double.
Rapporte à la population.
Ça défait dire un peu n'importe quoi, parce que chacun défend son bout de gras. Oui. Et effectivement, on pourrait imaginer pourquoi l'Iran aux États-Unis. Alors l'Iran n'est pas un pays agressif, puisque je rappellerai que l'Iran finance le Hezbollah et le Hamas, et je rappellerai que la guerre au Liban, là, cette dernière, puisque c'est une guerre un peu éternelle, a été déclenchée par le Hezbollah. C'est le Hezbollah qui a commencé à frapper Israël au lendemain, d'ailleurs, du 7 octobre.
Après, on peut juger, mais
c'est ça la réalité, c'est factuel.
Est-ce qu'il y a un chanteur palestinien à l'Eurovision?
Non, c'est pas palestinien.
Parce que la Palestine n'est pas.
On a Benoît qui est avec nous, qui est professeur de mathématiques. Et Benoît, attendez, ce qui est intéressant, c'est que Benoît, il est à Vienne. Bonjour, Benoît.
Bonjour, les grandes gueules.
Et parce que vous suivez le concours Eurovision.
Eh oui, c'est mon 15e Eurovision sur place et je remercie les quelques béotiens que je viens d'entendre parler de l'Eurovision en termes de futilité. Pour moi, la Coupe du Monde de foot, c'est aussi une futilité dans ce cas-là. Oui. Et j'aimerais remettre l'église ou plutôt la mairie au centre du village. L'Eurovision, c'est une grande dame qui a 70 ans. Ce n'est pas un concours de pays, messieurs, dames. C'est un concours de radiodiffuseurs, de services publics. Ouais. Quand on dit la France, non, c'est France Télévisions. Quand on dit la Belgique, non, c'est la RTBF. Quand on dit l'Israël, non, c'est la CAN qui a les droits de diffusion et qui respecte le cahier des charges de l'Union Européenne de Radiodiffusion, contrairement à la Russie, où Russia One ne le faisait pas. La Biélorussie, où je suis allé aussi pour le Junior en 2018, où la télévision ne le faisait pas.
C'est-à-dire qu'elle ne faisait pas, sur quel critère elle ne faisait pas, c'était...
Respect de la parole de l'opposition, du pluralisme de qui s'exprime dans ces médias publics. Quand j'entends que c'est un concours suranné, je ne sais plus qui parle parce que là je suis en train de regarder.
Monsieur Marty, c'est odieux.
Le concours suranné, j'aimerais bien qu'il regarde. C'est le plus grand concours de télévision au monde. 200 millions de téléspectateurs. Depuis quand n'a-t-il pas regardé l'Eurovision? Ah, peut-être des années où ça puait, où tout le monde se, entre guillemets, pinçait le nez. Je n'ai jamais vu un centre de presse aussi chargé cette année, avec des médias qui, à l'époque, disaient « Oh non, mon Dieu, qu'est-ce que l'Eurovision ?» Le Monde, Le Figaro et plein de grands médias sont là pour...
Mais justement, Benoît, simplement pour une question géographique, d'ailleurs, qu'Israël soit dans le concours Eurovision, est-ce que c'est logique ?
Alors, puis-je permettre de me dire encore des choses ? Est-ce qu'en 1980, le Maroc, qui participe à l'Eurovision, est-ce que c'est l'Europe ?
Et l'Azerbaïdjan participe à l'Eurovision.
C'est pas logique.
Oui, j'y suis allé.
L'Australie aussi, j'ai vu là. C'est pas logique.
La Turquie aussi, non?
La Turquie, ça reste, les critères entre guillemets de l'Eurovision et de virilité entre guillemets de l'Eurovision ne leur plaisent pas.
Comme là, c'est pas logique
jusqu'à il y a peu de temps. Mmh. Il s'était retiré du concours. Mais quelque part, oui, le Maroc en 1980 a participé une fois à l'Eurovision.
Ah, c'est pas logique.
Ok. C'est pas l'Europe non plus. Non. Israël, ok, c'est pas forcément l'Europe non plus, l'Australie non plus.
Non, mais non plus, c'est pas ça, pas du tout même.
Arrête de s'appeler ça.
Voilà, on a plus plus ça l'Eurovision.
Alain est un taliban de la géographie.
Il a le droit de l'Eurovision. Le Vatican a très bien le droit de participer à l'Eurovision.
Ah oui, mais.
Et je vais vous annoncer un truc. Hier, j'étais en conférence de presse. L'Eurovision Asia va arriver ici au mois de novembre avec 10 ou 15 pays asiatiques. Elle aura lieu à Bangkok le 14 novembre.
Dites-moi, Benoît, attendez, parce que là, on a un fan, enfin, on a un connaisseur, ah bah oui, même plus qu'un fan.
Un expert.
Benoît, je vous pose une question. Est-ce que Monroe, notre jeune chanteuse de 17 ans, elle est toute jeune, je crois qu'elle a 17 ans, est-ce qu'elle a une chance cette fois-ci? Est-ce qu'on peut y croire?
Alors, j'étais hier soir dans la salle, justement, je voyais la répétition. L'accueil du public a été énorme. Demain soir, on passe en 15e position. C'est peut-être une très bonne place. Il faut se méfier des Finlandais qui sont énormissimes favoris. À mon avis, l'an prochain, on est déjà parti à Helsinki. Il y a l'Australie aussi qui est très bien placée. En tout cas, l'appréciation d'hier soir a cloué tout le monde. Oui, la France, il faut lui donner ses chances. On passe en 15e position. Alors, la France peut pas voter pour la France, non, évidemment, mais on peut très bien appeler tous les auditeurs qui nous écoutent en dehors du sol français et qui ont une carte SIM différente de la France, de voter pour la France jusqu'à 10 fois, puisque le règlement le permet.
Ah bah très bien. Là, en tout cas, on est tous derrière elle.
L'expert dit que 10 fois, c'est encore 9 fois de trop.
Merci Benoît.
Je vous en prie.
Merci de votre expertise.
Et c'est alors, donc demain soir.
On est tous derrière Monroe, n'en déplaise à Jérôme Martin.
Non, on est tous
cœur sur elle.
On est tous derrière Benoît parce que c'est toujours agréable de rencontrer des gens passionnés.
Des passionnés.
C'est toujours génial, quelle que soit la passion.
Alors, Israël a-t-il sa place à l'Eurovision? On a posé la question, oui ou non. Vous dites oui à 68%. Dans un instant, on va aller à Nantes, du côté du quartier Port-Boyer. Je ne sais pas si vous y habitez. Règlement de compte, trafic de drogue. Les victimes, 15 ans et 13 ans, grièvement blessés. Le ministre de l'Intérieur est sur place. Ça va tout changer. Il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Venez prendre la parole avec les GG, avec les Grandes Gueules, avec Florent Guibali, avec Jean-Loup Bonamy, avec Jérôme Marty. Il est 9h25. On va revenir sur ce qui s'est passé à Nantes la nuit dernière. C'est malheureusement un scénario auquel nous nous sommes habitués, tragiquement. Un adolescent de 15 ans qui a été tué par balle, deux autres mineurs blessés, parmi lesquels un ado de 13 ans, dans le quartier Port-Boyer.
Oui, Marseille n'a plus le monopole des tueries liées au trafic de drogue. Là, on est à Nantes, dans le quartier Port-Boyer. La fusillade a éclaté hier vers 19h30. Alors, d'après le procureur de la République, les tirs ont visé trois jeunes hommes. Le premier, qui venait d'avoir 15 ans, est décédé sur place. Le deuxième, 13 ans, est actuellement hospitalisé et son pronostic vital est très engagé, a dit le procureur. Le troisième avait 14 ans, il a été moins gravement touché, il est blessé, hospitalisé, sans pronostic vital engagé. Les auteurs de cette tuerie sont en fuite. Alors on nous dit que tous les moyens, bien sûr, sont mis en place pour les retrouver. Et il s'agit, c'est ce que dit le procureur, d'un règlement de compte en lien avec des infractions à la législation sur les stupéfiants. Nunez est attendu sur place ce matin. Et quand on interroge les habitants, ils disent que la situation ne cesse de se dégrader depuis des années. Donc ne faisons pas mine, malheureusement, de découvrir que ces règlements de compte se multiplient un peu partout en France. C'est le 26e épisode de tir à Nantes en 2026, rappelait la maire Johanna Roland.
Je sens venir la méthode salvadorienne.
Ah non, parce que je l'ai déjà
fait. Pas tout de suite.
Non, je l'ai déjà fait. Non, c'est juste, moi je suis... écoutez, justement, Olivier vient de le dire lui-même. Les Nantais l'ont voulu. Il y a eu quelque chose qui s'appelle des élections municipales récemment. Vu le résultat et la victoire de Madame Roland, vous savez, Madame Roland, c'est celle qui avait organisé cet atelier où il fallait enterrer ses vêtements pour lutter contre le réchauffement climatique.
Bon,
voilà, en plus. Et donc, J'avais manqué cette précision substantielle. Et donc, oui, j'ai cru comprendre que les Nantais, en tout cas une majorité d'entre eux, pas tous, mais ceux qui avaient permis la réélection de Madame Roland, n'étaient pas très attachés à la sécurité, à leur propre sécurité, à la lutte contre le narcotrafic, et finalement qu'ils assumaient par le bulletin le fait que des enfants de 14 ans puissent se faire abattre, que finalement c'était moins important que d'enterrer ses sous-vêtements. Donc voilà, les Nantais l'ont voulu, je compatis pour la forte minorité de Nantais qui a voulu l'alternance et plus de sécurité, quel que soit son bulletin de vote. Mais apparemment, ce n'est pas la population majoritaire. Le bobo nantais se moque du jeune de banlieue de 14 ans ou de 15 ans qui se fait abattre.
Je ne sais pas dans quel monde.
Je préciserai simplement que à Nice. Il vient d'avoir aussi
exactement.
Une tuerie.
Tu me fais dire ce que je n'ai pas dit. Une seconde. Je n'ai jamais dit que le maire pouvait régler cette situation qui ne dépend pas de lui. Mais je dis que les électeurs, la majorité des électeurs s'en fout.
On dirait que Johanna Roland a tiré à bout portant sur un enfant de 14 ans, elle-même dans les narcotrafics.
Mais je dis qu'elle semble.
Jean-Louis, ce que tu dis, c'est que Johanna Roland est donc la maire de Nantes, la responsable directe de cette tuerie. Bah, t'as commencé par dire ça.
Elle s'en fout, ce qui est différent.
Attendez, chacun va parler, sinon ça va battre.
T'as commencé par dire si Johanna Roland n'avait pas été élue, il n'y aurait pas eu cette tuerie.
J'ai jamais dit ça.
Les électeurs qui ont voté pour...
Je n'ai jamais dit ça.
D'accord.
J'ai dit que les électeurs se moquaient des questions de sécurité.
D'accord. Donc les électeurs qui ont voté pour Johanna Roland ont un mort sur la conscience.
Voilà. Et se moquent des questions de sécurité.
Voilà ce que tu as dit.
Voilà ce qui est différent.
Sauf que si seulement l'élection d'un maire pouvait endiguer le narcotrafic en France, ça serait la preuve...
Ça tombe bien parce que j'ai jamais affirmé ça.
Nice, qui était à droite et qui est passé à l'extrême droite de Estrosi à Ciotti, a vécu aussi des tueries. Le narcotrafic, il y a une étude qui montre qu'il est présent dans toutes les villes de France, quel que soit leur taille et quelle que soit leur exposition.
Donc c'est aujourd'hui, d'ailleurs au nombre de HLM qu'on met partout en France.
C'est pénible en fait. Stop. Donc le problème, Jean-Loup, c'est que si seulement les maires pouvaient quelque chose au narcotrafic, tout irait bien dans le meilleur des mondes en fait. On changerait de maire et on arrêterait le narcotrafic. C'est un problème qui est mondial. C'est un problème auquel on a très peu de solutions. On avait reçu ici une sénatrice qui avait fait une enquête sur le narcotrafic. Elle avait sorti un livre comme ça de 400 pages et à la fin elle disait finalement on n'a pas beaucoup de solutions, donc malheureusement notre classe politique elle est démunie face à ce problème et c'est pas demain la veille qu'on va le régler et c'est ça le problème avec les populistes de ton espèce, c'est que les électeurs ils se disent peut-être, je pense pas d'ailleurs que les électeurs soient assez dupes pour y croire, mais on pourrait se dire quelqu'un
après,
m'a dit
aussi de l'État,
c'est bon,
des
on a juste besoin d'un maire qui met le mot sécurité sur son tract, et on va régler le problème du narcotrafic.
À propos de solution, Alain évoquait le Salvador.
Honnêtement, quand on a des gens qui sont capables de tirer et de tuer des gosses de 13 ans, 14 ans et tout ça, je pense qu'ils se foutent complètement de la couleur politique des électeurs de la ville. Ils s'en foutent complètement. Ils se foutent de qui est le maire, ils se foutent de qui gère à la fois les finances et la protection de la ville. Ils s'en foutent, ils sont dans leur propre monde. Comme le dit Flora, le problème, et c'est ce que nous avait dit la sénatrice, c'est que bien souvent, il y a une telle masse économique en jeu que l'économie souterraine est devenue l'économie réelle dans certains endroits. Il y a des frontières aujourd'hui qui, pour les armes, parce qu'on est entouré de conflits, sont devenues des passoires. Encore à Toulouse, je crois hier, on a saisi plusieurs kalachnikovs, des armes de poing, etc., sur une descente de police. Je veux dire, des kalachs, ça tire à Toulouse, à la kalach, régulièrement, la mairie est de droite, on peut pas dire que Moudenc soit un tendre, quoi. Mais pour autant, ça tire et ça tire partout. Et on va avoir de plus en plus, malheureusement, des gosses qui tomberont parce que ces gens sont des barbares qui ne regardent que leur mode sociétal à eux, que leur micro-société à eux.
Et parce qu'un point de deal, c'est 10, 15, 20 000 euros par jour.
Exactement. Et qu'il y a toute une économie
Mais reconnaissez quand même que on ne cesse de commenter ces règlements de compte avec, effectivement, je termine,
depuis que je suis
des
ici,
victimes,
c'est un Marocain, on
des victimes
malheureusement.
Ou des tueurs de plus en plus jeunes, parce que les victimes sont très jeunes, mais on verra sans doute que les tueurs sont sans doute mineurs aussi. Donc on a un abaissement de l'âge, et que je suis désolé, mais c'est à l'État d'y répondre, c'est une émission régalienne de l'État. L'État veut veut s'occuper de tout. Peut-être qu'il s'occupe de trop de choses, mais là, la responsabilité de l'État, c'est d'assurer la sécurité des citoyens.
Olivier,
et pardon, Laurent Nunez va sur place, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Rien. Bon, pourquoi n'est-on pas plus sévère, par exemple, avec ces mineurs? Pourquoi la justice des mineurs n'évolue pas? Enfin, il y a des choses qui se disent ici autour de la table, et il ne se passe pas grand-chose.
Nous avons vécu des descentes de ministres de l'Intérieur à Marseille, avec des moyens mis sur la table, avec quasi presque l'armée sur place.
Des opérations XXL,
Marseille en grand. Un an ou deux ans plus tard, qu'est-ce que ça a donné? Globalement rien. Si, ils ont arrêté du monde, mais ça repousse comme des champignons.
On a Hassan. Donc il faut trouver d'autres solutions dans la discussion. Qui est dans l'Hérault. Bonjour Hassan.
Oui, bonjour les GG. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravi de vous avoir. Alors écoutez, moi, ça fait des années que je vous écoute, l'époque de Maillot. Vraiment, je suis très ravi de voir. Moi, c'est quelque chose qui me touche, que j'écoute énormément. Je vois dans les quartiers à Montpellier, à La Paillade, d'autres, mais des choses. Et ce qui m'agace, c'est que, en fait, ça fait des années, on laisse faire. Ce que je remarque, un constat que je fais, c'est que, en fait, on les laisse se tuer entre eux. Tant qu'ils sont dans les cités, ils s'éliminent entre eux, ils se tuent. Bon, mais le gouvernement, entre guillemets, ferme les yeux. Par contre, s'ils venaient à reproduire la même chose aux Champs-Élysées, en plein cœur de Marseille ou en plein cœur de Lyon, je pense que le gouvernement prendrait davantage ses responsabilités. Et malheureusement, depuis des années, vraiment, je suis en colère, on a des marionnettes, on a des personnages qui agissent uniquement quand il y a un drame. Et là, c'est des enfants, c'est des mineurs. Et qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de venir, de faire semblant de se recueillir comme des hypocrites, quelle solution concrète ils proposent? Quelle solution? Rien. Alors, tout à l'heure, j'entendais Monsieur Jean-Louis. Jean-Loup, que j'apprécie également toute l'équipe. Mais excusez-moi, un maire ne peut rien faire face à ça. C'est à vraiment l'État de rétablir l'État de droit.
Je suis d'accord que c'est à l'État.
Un maire ne peut rien faire. Malheureusement, le maire, il ne peut rien faire.
Il peut rien faire. Après, il y a une chose.
Il peut aussi.
Oui, mais Hassan, il peut aussi avoir une police municipale qui patrouille. Une police municipale soit armée. Je crois qu'il y a débat sur l'armement à la police municipale. Ça, c'est une prérogative du maire, Hassan. Si déjà dans ces quartiers, vous mettez des patrouilles régulières de police municipale, ça ne réglera pas tout. Mais ça rassurera peut-être une partie des habitants et ça entravera une partie. On a vu M.
Ciotti, maire de Nice, annoncer justement qu'il allait mettre des municipaux.
Attendez.
Qu'est-ce qui passe, les municipaux face à des galages?
S'il vous plaît. Pardon.
Allez-y, Hassan.
Il faut les armer déjà.
Je ne reste pas longtemps en antenne. Excusez-moi, mais les policiers municipaux, mais avec quelle arme?
Mais voilà.
Vous avez des armes de guerre. Vous avez des kalachnikovs. Quelle réponse on apporte? On dit on va mettre des policiers municipaux, mais en face, vous avez des gens qui bafouent toutes les règles et qui n'ont même pas peur de l'État, qui n'ont même pas peur des sanctions, qui n'ont même pas peur de la réponse judiciaire. Et on va mettre des policiers municipaux.
Mais
arrêtons de faire des mesurettes quand même.
Laura, tu voulais réagir.
La vraie question, c'est quelle arme numérique on apporte, quelle réponse cyber on apporte, parce que je sais pas si vous avez vu cette semaine, il y a un influenceur qui démasque les pédocriminels sur Twitch. Vous avez suivi cette affaire? Il se fait passer pour une fille de 14 ans en intelligence artificielle, il y a plein d'hommes qui sont intéressés. Il fait le travail de la police nationale. Ce jeune garçon, je sais même pas s'il est majeur, il n'empêche qu'il devrait être recruté tout de suite par la police au prix de son choix pour devenir formateur de la police, pour que la police puisse démasquer. Les dealers, c'est pareil. Les dealers, ils sont sur Snap, ils sont sur Insta, ils postent des photos avec leurs armes et ils ne se sentent même pas inquiétés de poster sur les réseaux parce que ils ont même pas peur de la police. Ils se disent, mais vous croyez que les flics, ils savent aller voir sur Snap ce que je raconte? Donc, avant même de penser à faire la guerre sur le terrain avec eux, il faut faire la guerre préventive. C'est-à-dire qu'il faut faire la guerre sur Internet. C'est une bataille qui se joue d'abord sur Internet. Aujourd'hui, le phénomène des enfants soldats, le phénomène des enfants tueurs, c'est vous donner 500 € sur Snap à un jeune garçon et il va tuer quelqu'un pour vous. 500 euros, hein. pourquoi ces jeunes-là ont aussi peu d'inconscience? Parce que c'est des jeunes qui vivent sur les réseaux, ils vivent dans le web, ils vivent pas sur Terre, donc ils ont pas conscience des réalités. Donc, penser à les limiter avec le logiciel de quelqu'un qui est pas sur les réseaux toute la journée, c'est pas le bon logiciel. Donc, à commencer, ce qu'il faudrait commencer par faire, c'est avoir une police nationale qui est équipée sur le sujet cyber.
Hassan pense pas le cas aujourd'hui. On va avoir de l'affichage, voilà, du ministre de l'Intérieur. On a Nicolas qui a connu Nantes, il y a habité longtemps. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour.
Vous connaissez le quartier de Port-Boyer alors?
Je connais, mais je connaissais surtout, moi, c'était le quartier Beaulieu à Nantes.
D'accord.
Ouais. Qui était le quartier, on dirait, un peu malfamé dans les années 80-90. Mais aujourd'hui, je ne reconnais plus cette ville que j'aime en tant que supporter en plus du FC Nantes. Mais je ne me reconnais plus, je n'y vais plus. En fait, on se sent complètement en insécurité entre les dealers et les zadistes. Aujourd'hui, cette ville, c'est un vrai no man's land, quoi. C'est devenu n'importe quoi.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que Nantes, qui était il y a quelques années encore en tête de tous les palmarès des villes où il fait bon vivre et les gens rêvaient de s'installer à Nantes, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Angers d'ailleurs, qui est pas très loin, oui, qui est une ville voisine, a pris le relais et les gens vont plutôt à Angers qu'à Nantes. Mais là, je rejoindrai un peu Jean-Loup. Je veux dire, à un moment donné, la ville s'est pas dégradée toute seule. C'est-à-dire que c'est aussi des politiques de la ville, c'est des choix électoraux, ouais. Qui ont privilégié électoralement.
Exactement.
On veut faire de Nantes une ville de bobos, donc on privilégie le centre-ville, on fait du tramway, c'est très bien, etc. Mais on oublie les quartiers plus populaires, parce que de toute façon, ça ne vote pas. Enfin, se dire, si, en fait, tout est politique. Je veux dire, effectivement, comme tous ces quartiers ne votent pas, bon, alors là, on va pleurer la mort de ces jeunes hommes, mais on va les oublier. Et puis finalement, oui, pour beaucoup de gens, c'est des jeunes entre eux.
Voilà.
C'est des racailles entre eux, c'est pas
mais
grave.
Oui,
vous voyez,
c'est
pas
le
psychologue du centre-ville.
C'est pas une fusillade sur les Champs-Élysées, ça s'est rejoint ce que disait notre auditeur.
Donc, ça ne va pas intéresser grand monde.
Allez-y, Nicolas.
Vous savez, on délaisse les quartiers, certains quartiers de Nantes, mais on délaisse aussi le centre-ville de Nantes. Le soir, je peux vous confirmer, le soir, quand vous allez dans Nantes...
C'est un coupe-gorge.
C'est un vrai coupe-gorge, quoi. Les gens ne se sentent pas en sécurité à Nantes. Mmh. Et moi, vous savez, j'habitais à 60 km de Nantes, 60 de Rennes et 60 d'Angers.
C'est un principe, vous vous mettez à 60 km
oui,
de tout.
Oui, c'est à peu près, c'est à Châteaubriant et je passe un bonjour à tous les Castelbriantais. Mais en fait, j'allais toujours à Nantes, Rennes c'est devenu exactement pareil. Et effectivement, vous avez raison, Angers c'est complètement différent. Mais d'ici peut-être 10 ans, on dira qu'on
est dégradé,
la
Angers.
Même chose. Hein.
Ouais.
Vous savez, c'est voilà quoi.
Coup de gueule de Nicolas, coup de gueule d'Hassan à propos de ce règlement de compte sanglant du côté de Nantes.
Mais faut peut-être arrêter d'obliger, puisque Olivier disait aussi que ça se répand dans les petites communes. Oui, faut peut-être arrêter de construire des HLM et des cités partout et de faire des lois.
Non, mais regarde l'émergence que l'on a dans la ruralité, en semi-ruralité. Aujourd'hui, on a la coke, on a l'héroïne, etc., qui arrive en ruralité.
Ça vient
pas. Non, mais c'est pas que les cités.
Bah, si.
Ce que je veux dire, c'est que là, on ne voit que l'écorce d'un fruit pourri. On voit ça. On voit ce qui est à l'extérieur. Mais en fait, ce qui est à la base de tout ça, c'est même pas en France. Les mecs qui commandent ça, ils sont pas en France. Ils sont pas en France. Donc si t'as pas une grande politique internationale, et tu l'auras jamais, t'auras
des mafias qui ont été arrêtés.
Est-ce qu'à votre avis, puis là, les tireurs de Nice, le tireur a été interpellé et ainsi que trois complices. Donc la police.
Dans 15 jours, dans 15 jours, on refera le même sujet avec des morts du même âge dans une autre ville.
Sûr. Est-ce que c'est devenu incontrôlable le narcotrafic, oui ou non? Quel est votre sentiment? Vous me dites oui à 95%.
Voilà. Laurent Nunez, c'est les 5% qui restent.
Dans un instant, on s'enfonce, on s'en fout pas, reste avec les grandes gueules, il est 10h-20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, avec vous sur RMC et RMC Story, avec Flora Guebali, avec Jean-Loup Bonamy, avec Jérôme Marty et avec Anaïs Inès Sainz, puisque c'est à l'heure du On s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour Alain, bonjour les GG, bonjour à tous. Cette histoire hallucinante d'abord d'un bébé récupéré complètement ivre par ses parents à la sortie de la crèche. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jean-Loup ?
On s'en fout.
Jérôme ? Attends,
Je m'en fous pas en tant que médecin, mais bon, l'histoire en elle-même, j'ai pas d'éléments dessus, mais bon, je m'en fous pas, non,
c'est sûr. On s'en fout pas.
Bon, l'affaire remonte au 17 mars dernier, cela s'est passé dans l'Oise.
De la Saint-Patrick, alcool.
L'enfant de 21 mois présentait un taux de 2,14 grammes d'alcool dans le sang. L'équivalent de 10 verres à peu près pour un adulte. Un cas isolé, a assuré le groupe People and Baby, hein, dont fait partie cette crèche. Toujours aucune piste n'est écartée. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé encore. Hein. Les parents ont porté plainte, bien sûr, et le magistrat en charge de l'enquête poursuit ses investigations. En attendant, la crèche en question a été fermée provisoirement. Docteur Marty.
Écoute, j'imagine qu'on lui a fait boire quelque chose, mais ça paraît dingue, quoi.
Ou alors parce il a trouvé quelque chose.
Tu dis 2 grammes 14, combien?
Oui, 2 grammes 14.
Comment d'ailleurs il a pu supporter
boire
de
l'alcool? C'est ce que je suis en train de me dire. Soit c'est très dilué, et ça veut dire qu'on lui a fait prendre des quantités de liquide faramineuse, soit c'est de l'alcool fort, et je ne vois pas comment on peut arriver à faire prendre de l'alcool fort à un bébé, quoi.
Vous voulez une information géographique? En Suède, enfin dans les pays nordiques, c'est très fréquent de mettre de la bière dans le biberon du bébé.
Oui, mais de la bière, 2 grammes 14.
Encore aujourd'hui?
Certes, c'est sûr aujourd'hui.
Certes, c'est sur un bébé, mais quand même, quoi.
Vous êtes en Bretagne.
Parce que c'est culturel, ils considèrent que c'est normal.
C'est en Bretagne.
Il y a bien une raison.
Mais si c'était pour endormir, c'était pour calmer l'enfant.
Mais comment ça peut être, la question, c'est comment ça peut être involontaire?
Oui, moi, on m'a parlé d'une vieille tradition affreuse à ne vraiment pas reproduire. C'est quand un bébé arrive pas à s'endormir, on trempe un torchon dans du whisky et on lui met sur le nez. Oh. Et ça l'endort. Ben oui. Ouais, c'est une vieille tradition française, mais c'est immonde. C'est très grave. C'est illégal et interdit par la loi, et très grave.
C'est bien pour ça que tu donnes l'astuce à tous nos auditeurs.
moi, ce que j'ai,
non, justement. Ne faites pas ça chez vous.
C'est de la prévention.
En découvrant cette info, ce que je me suis dit, c'est que c'était des auxiliaires de puériculture épuisés par un bébé qui pleurait, qui se sont dit, on va lui faire quelque chose comme ça. Mais si c'est ça, c'est très grave, et j'espère que ces personnes n'iront en prison.
On enchaîne.
Les GG, la France est sauvée. Elisabeth Borne lance son mouvement Bâtissons ensemble. C'est le nom de ce mouvement. Elle l'a annoncé hier dans Paris Match. L'ancienne première ministre pourra compter sur le soutien de plusieurs ex-membres du gouvernement. Alors attention, c'est du lourd. Agnès Buzyn, Éric Dupond-Moretti, Nicole Belloubet ou encore Marc Ferracci. Elisabeth Borne avait quitté la direction de Renaissance la semaine dernière, mais elle va rester membre quand même du parti présidentiel. On s'en fout pas, Jérôme Marty?
Non, on s'en fout pas.
Jean-Loup?
Ballet.
Flora?
On s'en fout pas.
Pourquoi?
Parce que le bloc central se met en mouvement. Ça paraît bizarre pour un citoyen que Elisabeth Borne lance un mouvement, mais en fait son but c'est pas du tout de parler aux citoyens. Son but c'est de placer son écurie, son micro-parti, dans l'écosystème du bloc central qui va se constituer pour 2027. En fait l'idée c'est de dire que ce soit Attal ou Philippe, voire Retailleau qui prennent le leadership dans ce bloc. Il faut recycler du ministre et donc il faut que un maximum de ministres puissent rester, de députés, etc. Et donc, il faut montrer qu'on pèse, qu'on a du poids. Malheureusement, ce système-là, il est assez erroné parce que leur but, c'est pas d'aller chercher un maximum de citoyens ou d'apporter les meilleures idées sur la table. Leur but, c'est de participer à l'écosystème qui va gagner la présidentielle en 27.
Il y a un intrus dans ta phrase. Comment tu peux dire il faut montrer qu'on pèse en créant un micro-parti?
Oui, c'est ça.
C'est assez curieux.
Et en divisant son propre bloc.
Quel est ce mode curieux de pensée qui fait que moins tu représentes de voix, plus tu crées des partis et des tendances? C'est quand même. Je veux dire, ça fait des années qu'on entend le fait qu'on a la droite la plus bête du monde ou le centre le plus bête du monde, etc. Et on le prouve encore une fois. Quel vapoton ensemble, ça marche beaucoup mieux. Mais ça, construisons ensemble ou je ne sais
pourquoi
quoi.
Pourquoi elle reste à Renaissance?
Non, mais c'est pas ça.
Franchement, quel intérêt, quoi.
Ce qui est dingue, c'est que ces gens du bloc central ne cessent de dire que leur cauchemar, c'est un deuxième tour, Mélenchon-Bardella.
Et
ils se divisent un peu plus.
Oui,
en fait, c'est uniquement une réaction anti-Attal. Elle supporte pas Gabriel Attal. Elle dit que Renaissance a été finalement captée par Gabriel Attal quand elle est président. Et donc elle récupère tous les non-attalistes dans l'espèce de mouvement. D'ailleurs, on voit pas tellement pourquoi Dupond-Moretti avec Marc Ferracci qui est un proche de Macron.
Ah, c'est juste casser les pieds de Gabriel Attal.
Voilà.
Hein.
Donc en fait, ces gens-là qui nous disent que leur cauchemar, c'est d'éviter un second tour Mélenchon-Bardella, sont en train de préparer ce second tour et qui continuent comme ça. Hein. On aura un second tour.
Ils se pensent tous chefs à la place du chef. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont été nommés au cours de leur vie, souvent en politique, ont été nommés et qui tout d'un coup veulent créer. Mais pour créer, il faut avoir une vision, une ambition politique.
Madame Borne, elle est capable de voter, enfin d'être d'accord avec la suspension de sa propre réforme.
Mais c'est ça. Voilà.
Les convictions.
Point barre.
Bon, les GG. Toujours aucune trace du cobra très venimeux aperçu près de chez toi, docteur Marty, dans la commune de Castelginest, près de Toulouse. Donc, les autorités appellent à la plus grande prudence. Le livre de la jungle. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Flora?
Mais moi, je m'en fous.
Jérôme?
Ben moi, je m'en fous pas, tu l'as dit, c'est à côté de chez moi. Donc.
Bah oui.
Jean-Louis. Ah, je m'en fous pas du tout. Beaucoup moins que, moins que d'Elisabeth Borne.
Les GG, la traque du reptile se poursuit. Le préfet appelle les habitants à ne pas se lancer eux-mêmes à la poursuite de l'animal. Évidemment, des pièges ont été installés pour tenter de l'intercepter. Le maire de la commune a même fermé les espaces verts. Et une enquête a été ouverte pour savoir d'où provient ce serpent. On ne sait toujours pas. Mmh. Le cobra royal injecte parfois une très grande quantité de venin. Une seule morsure peut tuer plusieurs adultes si elle n'est pas traitée rapidement. Docteur Marty, on doit paniquer là ?
Non, paniquer non. Il y a une chance, c'est qu'il fait froid, paradoxalement, dans ma région, où en cette période, habituellement, il fait beau. Mm. Mais là, il fait assez froid, donc ça veut dire que le métabolisme du serpent est ralenti, donc il ne réagira pas de façon extrêmement violente. Et on a mis des pièges où il y a de la chaleur, parce que vous savez que les serpents, c'est des animaux
sans froid,
et donc ils se mettent dans les endroits chauds. Donc il y a des pièges, il faut espérer qu'ils vont l'attraper, mais ça fait quand même plusieurs jours que la blague dure.
On a fermé
les écoles,
parce que si tu nous dis qu'ils cherchent la chaleur comme il fait pas très chaud.
Vérifiez vos duvets.
Il peut aller dans les maisons.
Jean-Loup. Non, on s'en fout pas. C'est un sujet important, angoissant et intéressant, beaucoup plus que le micro-parti de Madame Borne. Et donc, vous savez que les morsures de serpents, déjà, c'est 100 000 morts par an dans le monde. C'est quand même vraiment beaucoup. C'est un animal qui tue et qui tue énormément. Et en plus, je pense que ce genre de cas va être amené à se multiplier, parce que vous savez qu'il y a quand même beaucoup de dingues qui introduisent clandestinement, sans les déclarer et sans même toujours retirer les crochets à venin, des serpents en France, au marché noir, clandestinement. Et donc, évidemment, il peut y avoir des incidents.
Mais j'ai un patient d'ailleurs dans le bouc qui les récupère. Dans le boulot, c'est justement d'aller récupérer ces animaux que certains ont pris sur le coup de l'émotion et qui ne savent pas du tout les élever ni les garder. Et donc lui, il les récupère pour justement...
belle activité,
parce que là, ce cobra, ce qui serait intéressant de savoir, c'est d'où il vient. J'imagine qu'il ne s'est pas échappé d'un zoo tout seul.
Il n'était pas dans un zoo, je pense.
Voilà. Non. Donc, en revanche,
qui est quelqu'un qui l'a pris,
qui l'a chez lui. Je me souviens qu'il y avait une année, c'était des voisins qui s'étaient plaints, ou c'était un facteur qui avait découvert qu'il livrait, en fait, dans des petits colis, des migales et des araignées chez un type qui avait 180 sortes d'araignées dans son appartement.
C'est des petits colis chines.
Ça s'appelle les NAC, les nouveaux animaux
de compagnie.
De compagnie.
Les colis bougeaient seuls.
Même ça, on en a fait un sigle. Même ça, on en a fait un sigle, les NAC.
Les NAC, ouais. Effectivement. Merci Anaïs. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, vous allez pouvoir recomposer le 32-16 et venir discuter avec Jean-Loup Bonamy, Jérôme Marty et Florent Guébali de l'antivirus. Parce que l'antivirus, les 26 cas contacts français ne présentent aucun symptôme. Donc a priori, on est rassuré. Mais avec l'antivirus, et ça, c'est pas fait pour nous rassurer, qui on a vu revenir ? Les complotistes, parce que bien sûr, l'antivirus... il arrive à point. On peut être sûr que c'est les firmes pharmaceutiques qui le font monter pour pouvoir derrière nous vendre des vaccins. Le retour des complotistes avec l'antivirus, à tout de suite au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.